Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque matin, samedi à partir des 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Madame Sifa Bahati, elle est journaliste à la Radio Soleil émettant des Butembo Nord Kivu. Elle est membre de l'Union Congolaise des Femmes des Médias, ICOFEM Butembo. Bonjour Madame Sifa Bahati.
Bonjour Guy Maté, bonjour à mes co-débatteurs et à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Monsieur Kamanda Okamanda Muzembe, il est journaliste et il est correspondant de la Radio France Internationale RFI en RDC. Bonjour Monsieur Kamanda Okamanda Muzembe.
Oui, bonjour Guy, bonjour.
Et Maître
bonjour
Hervé.
Bonjour à tous les auditeurs.
Merci. Et Maître Hervé Diakese, avocat, il est membre de la société civile. Bonjour Maître Hervé Diakese.
Bonjour Guy Maté, bonjour à mes co-débatteurs et à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Madame Sifa Bahati, elle est journaliste à la Radio Soleil émettant des Butembo Nord Kivu. Elle est membre de l'Union Congolaise des Femmes et des Médias ICOFEM Butembo. Monsieur Kamanda Okamanda Muzembe, journaliste et les correspondants de la Radio France Internationale RFI en RDC. Et de Maître Hervé Diakese, avocat, il est membre de la société civile. Au menu de cette émission, déclaration de Paul Kagame au sujet des territoires congolais, affaire assassinat des jeunes de l'INAFEC à Lubumbashi et clôture des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs. Mais nous allons commencer par un commentaire sur la problématique du délabrement et du déficit des infrastructures routières en RDC. En effet, le député national Jackson Aoussé vient de déposer à l'Assemblée nationale une lettre d'interpellation à l'endroit du ministre des Travaux publics et infrastructures au sujet du délabrement des routes nationales de la partie est du pays. Pour l'élu d'Elitouri qui a déposé cette lettre lundi 17 avril, il est souhaitable que le ministre s'explique devant la représentation nationale au sujet de l'état dans lequel se trouvent ces routes nationales. Depuis plusieurs décennies, les infrastructures routières connaissent un déficit criant en RDC, déficit qui constitue un frein pour le développement socio-économique du pays. Pourtant, au cours des dernières années, plusieurs programmes d'investissement sur les infrastructures routières ont été élaborés. Madame Sifa Bahati, lorsque vous voyez l'état de nos routes en général, qu'est-ce que cela vous inspire?
Bon, merci beaucoup pour la question. Moi, personnellement, je pense que ce problème touche presque toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo et pire encore les routes de dessertes agricoles. Et lorsqu'on essaie d'analyser, on voit qu'il y a un grave problème de la mauvaise gouvernance. Je dis mauvaise gouvernance parce que vous-même, vous avez dit que ça a toujours été évoqué dans les programmes des gouvernants au cours des deux mandats, donc celui de l'actuel président Félix Tshisekedi et le président Joseph Kabila avec les 5 chantiers. Aujourd'hui, on nous parle du programme de développement des 145 territoires et aussi le programme 100 jours. Tout ce qu'il faut signaler, c'est que cette impraticabilité des routes a des conséquences. Par exemple, nous qui vivons dans des zones opérationnelles. Les services de sécurité ont toujours évoqué les mauvais états des routes pour justifier les retards dans les interventions. Et sur les plans économiques, il y a des citoyens qui ont du mal. Donc, ils investissent beaucoup d'argent dans l'agriculture, mais ils ont du mal à évacuer les produits dans les champs vers les centres de consommation. Et il faut aussi évoquer le fait que dans les milieux urbains, il y a ce problème de manque de rétrocession. Cette rétrocession qui peut permettre aux responsables des entités de santé d'entretenir les routes qui sont d'intérêt urbain pour les villes ou intérêt communal pour les communes. Moi, personnellement, je pense que pour résoudre les problèmes de praticabilité des routes en République démocratique du Congo, on peut partir des exemples des partenariats publics-privés qui ont réussi. Je peux vous parler, par exemple, de la ville de Goma, où on voit que la ville est en train d'être aménagée du jour le jour. Il y a aussi la route Butembo-Beni qui avait des problèmes entre 2015 et 2016, mais lorsqu'on a changé d'attributaire, actuellement, ça va, ça marche. Et même si la route Butembo-Mangourégi, pas qu'on ait aujourd'hui les problèmes à cause de l'effondrement du pont Viena, on sait que lorsqu'on a changé d'attributaire, il y a 2 ans, la route est à bon état actuellement. Donc, l'État doit identifier les attributaires sérieux qui vont travailler et pour l'intérêt de la communauté, de la société. Et lorsqu'il y a une réussite, les autres provinces ou soit les autres villes peuvent partir de ces exemples pour essayer de résoudre les problèmes des infrastructures routières à République démocratique du Congo. Parce que l'État a prouvé et ses limites, il y a des promesses non tenues, il y a des lancements qui n'aboutissent pas aux inaugurations. Et les auditeurs peuvent témoigner parce que c'est chaque jour qu'on annonce qu'on a lancé les activités de réhabilitation de telles routes, mais jamais on ne revient pas avec des reportages qui parlent de l'inauguration ou soit des inaugurations de ces lancements qu'on évoque souvent dans nos productions radiophoniques.
Merci. Merci, Madame Sifa. Monsieur Kamanda Okamana Muzembe, quand on circule à Kinshasa, comme à l'intérieur du pays, vous avez l'impression que les différents gouvernements qui se sont succédés dans ces pays n'ont pas accordé ou n'accordent pas assez d'importance aux infrastructures routières, alors qu'on sait que la route entraîne le développement. Comment on peut expliquer une telle situation?
Bon, moi je dirais que moi j'ai vécu à Kinshasa pendant plus de 50 ans et j'ai vu comment ça a évolué dans le régime Mobutu. Mobutu s'est occupé des routes. C'est lui, d'ailleurs, qui a construit la nationale ou les nationales, les routes nationales qui relient toutes les provinces. J'ai vécu les 20 ans, près de 20 ans, les deux décennies, je veux dire, c'est près de 20 ans de l'AFDEL, parce que les deux Kabila, c'est l'AFDEL, il faut dire. Donc j'ai vécu les près de 20 ans de l'AFDEL, c'est là que tout a commencé à se dégrader. Tout a commencé à se dégrader et aujourd'hui à Kinshasa, on a des problèmes. Il y a beaucoup de difficultés pour joindre les communes. Il y a beaucoup de difficultés parce qu'on ne sait pas sortir de chez soi à une certaine heure, disons à 8 heures, pour espérer atteindre le centre-ville si vous habitez la Cité Verte, par exemple. Vous sortez à 8 heures, vous ne saurez pas atteindre le centre-ville avant 10 heures, parce que là, vous avez des difficultés. Il faut sortir très tôt, quand les gens ne circulent même pas beaucoup. Là, vous avez la chance d'arriver à temps à votre boulot. Mais sinon, ça, c'était très compliqué. Et aujourd'hui, nous subissons la gestion du précédent gouvernement, enfin, du précédent régime. Nous le subissons. Et le président actuel essaye quand même de construire, de relier les points importants de la ville et de la capitale, donc et même du pays. Par exemple, dans la ville de Kinshasa, je viens de découvrir, il n'y a pas très longtemps, on peut sortir du centre-ville et joindre Mongafula à Relengeta, par exemple. Ça, je viens de découvrir. Je l'ai fait 2 fois et j'ai constaté qu'on est plus rapide que quand on veut suivre les routes traditionnelles. Quand on veut aller, par exemple, sur le, université, sur l'avenue de l'université, pour joindre d'abord le rond-point Ngaba et puis aller vers le Mont Ngafula, mais on perd du temps. Donc maintenant, on est en train de faire des efforts pour essayer de relier les différents points de la capitale et même du pays.
Merci, Maître Hervé Diakessé. Plusieurs projets ont été initiés, notamment les 5 chantiers, Chile-Gelou, Zéro Trou. On sent qu'il y a une certaine volonté, n'est-ce pas, de bien faire les choses. Mais est-ce que seule la volonté suffit? Vous avez suivi commandant Mouzembe qui a rappelé, n'est-ce pas, le maréchal Mobutu qui a eu à construire des routes. Pourquoi les gouvernements qui ont, n'est-ce pas, succédé au gouvernement de Mobutu n'ont pas pu faire comme lui, se pencher sur l'entretien et la construction des routes?
Merci beaucoup. Je salue particulièrement commandant Mouzembe, que je trouve particulièrement indulgent dans son diagnostic. Moi, je pense que la raison est simple. On ne va pas réinventer la roue. Les marchés publics liés aux infrastructures sont les causes de la mafia dans l'attribution de ces marchés. Donc, ne nous voilons pas la face. Ça, c'est l'un des plus grands problèmes. Si bien que si les fonds ne sont pas totalement détournés, ils sont donnés partiellement et qualité des matériaux qui a été ainsi utilisé est automatiquement inefficace. Donc c'est ça qui fait qu'on peut avoir des routes qu'on réhabilite ou bien des routes qu'on construit et puis après quelques deux ans, tout revient à la case de départ. Donc il y a d'abord un problème sérieux, un problème au niveau de l'État en ce qui concerne l'intégrité et le sérieux dans l'attribution de ces marchés. Le gros des attributaires, si on fouille sérieusement dans les conditions dans lesquelles ils ont pu être adjudicataires de ces marchés, il y a soit conflit d'intérêts, soit rétrocommission, mais manifestement, c'est des questions mafieuses qui malheureusement orchestrent tout cela.
Maître Hervé Diakessé, Madame Sifa Bahati a évoqué l'exemple de la ville de Goma, où on a bien géré, n'est-ce pas, ces partenariats publics-privés, et les résultats sont là. Pourquoi un tel exemple ne peut pas être dupliqué à travers toutes les provinces de la RDC?
J'étais très impressionné quand j'étais allé à Goma, effectivement. J'ai vécu cette expérience lorsque les gens m'ont raconté que c'était les affaires du milieu qui, en contrepartie d'une taxe, pas sur Paul, avaient accepté même de réhabiliter la voirie et les routes en milieu urbain, en utilisant en plus comme matériaux globalement les résidus de l'éruption de volcans. Donc comment une situation de malheur a été transformée en quelque chose de positif pour la communauté? Ça, ce sont des exemples à démultiplier. Enfin, quand vous me demandez pourquoi ça ne se démultiplie pas, peut-être parce que ceux qui attribuent les marchés n'y trouvent aucun intérêt. Une fois, j'ai suivi chez une de vos consoeurs, on demandait à un responsable de l'OVD, dit, mais pourquoi vous attendez que les trous deviennent suffisamment grands et que les gens commencent à s'empêtrer pour venir, alors que ce serait plus rapide si vous veniez au moment où les trous se dessinent? Je m'attendais à ce qu'ils puissent dire, bon, c'est une bonne idée, nous, parce que la maintenance est notre obligation, nous ne devons pas attendre que la situation s'aggrave. Mais il a dit que utiliser des matériaux pour réhabiliter un petit trou leur coûtait beaucoup plus cher que quand on vient pour les grands travaux. Donc, je considère qu'en réalité, les exemples sont là, comme Madame l'a dit, pour Goma, nous aurions pu, au moins, parce que ça c'est en plus des routes à l'intérieur de la ville, donc c'est des questions de l'OVD, je pense, et qui relèvent de la compétence de l'autorité locale. Nous pourrions déjà transposer ce genre d'exemple, c'est vraiment un exemple de succès, au niveau des décisions locales. Mais il y a des routes qui sont nationales, qui cette fois-ci n'exigent plus de décisions au niveau des entités locales, mais plutôt des marchés publics et des travaux de grande envergure, et qui peuvent peut-être dépasser aussi les capacités financières des initiatives locales. Là, c'est là où entrent les questions des rétrocommissions, des manques de transparence, et c'est alors qu'il y a souvent, quand l'entrepreneur a eu un marché et qu'en fait, l'argent qu'il doit utiliser à 50%, c'est déjà parti. Il va utiliser des matériaux de mauvaise qualité. Il va vous faire une route à durée très limitée et on va revenir à la case de départ. Autre chose aussi, si je peux suggérer, et je ne sais pas si on réalise que les routes de desserte agricoles peuvent aussi être utilement, surtout dans nos milieux où il y a de l'insécurité, être utilisées par la technique de haute intensité, l'usage de la main d'œuvre humaine. Donc, à défaut de tout bitumer, les systèmes de cantonnage, les systèmes d'entretien de la voie en terre battue, c'est aussi un mécanisme. Donc, toute cette jeunesse qui est souvent utilisée dans les groupes armés, parce qu'elle est désœuvrée, parce qu'elle est désabusée, c'est des emplois, c'est en même temps aussi une manière de sécuriser des tronçons et de désengorger, de désenclaver les milieux. Donc, on ne doit pas réinventer la roue. Nous savons ce qu'il faut faire. Les schémas existent. Même ce que M. Kamanda Okamanda vient de dire, de découvrir qu'en fait, les centres-villes, on peut l'atteindre par Elengesa. C'est des plans qui ont toujours existé depuis l'époque coloniale. Nous le savons et les techniciens dans toutes ces entreprises, que ce soit l'OVD ou l'Office des routes, les savent. Nous ne sommes même pas dans une question de volonté politique de ne pas faire, mais nous sommes dans du sabotage avéré.
Merci, merci. On prend une petite pause avec Kinshasa, une chanson de JBM Piana, et on revient tout de suite après. Ah.
Tumba Freddy Mokolo Nana yoka kina sango kine tonda santima Namona komina kinyango maina miyoke lima wa
Maina miyoke lima wa Na miyoke lima wa
Papa Lofi Kim Kol Nana yoka kina sango kini mpoto moindoe Namona yoka kina radoe Et pourtant, Bissona village est parti, chasse et puis Rala, moi, si mon bali, donne-moi un rendez-vous nakini. Quand on a posé la maison, et Oyo, pour moi. Quand on a posé la moule, va sous ta illusion.
Oh, Nami Okeli Mawa.
Eh,
Nami Okeli Mawa.
Chocho Bokito, Bobo Langa.
C'est Kinshasa dans cette chanson Jubien Piana, patron de Wenge Musica BCBG, peint un tableau sombre de la ville de Kinshasa. Parmi les éléments qu'il met en exergue, il y a notamment la saleté et l'état des routes. On revient à l'actualité de cette semaine. Devant la presse du Nord Kivu, lundi 17 avril à Goma, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya a dénoncé une nouvelle provocation du président rwandais Paul Kagame. Ce dernier a affirmé qu'une partie du territoire rwandais avait été cédée à la RDC. Si le président rwandais a l'habitude de travestir l'histoire dans son pays, il ne le fera pas en RDC, a affirmé Patrick Muyaya, avant de poursuivre, c'est une provocation et de toute évidence, il est important pour nous de ne pas donner écho à ses discours parce qu'il tend à changer les cours du débat dans sa stratégie de manipulation habituelle. Kamanda Muzembe, vous êtes journaliste et correspondant de la radio France Internationale RFI en RDC. Vous avez souhaité nous parler de ces sujets. On vous écoute.
Eh bien, je commence directement à dire que il me semble que le président rwandais Paul Kagame n'a pas fait un cursus scolaire normal où il aurait pu apprendre que l'histoire de la République démocratique du Congo, celle du Rwanda et celle du Burundi sont liées. Et liées, c'est que quand on regarde, parce qu'il a voulu, il veut plutôt récupérer des terres rwandaises en République démocratique du Congo. Mais lorsqu'il se réfère à la conférence de Berlin, le 1er août 1885, lorsqu'il dit que la cartographie a été mal faite, ce sont les Belges qui ont pris des terres rwandaises et qui les ont placées sous l'administration du Congo, mais là, il ment. Il faut dire qu'il ment parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Nous tous, nous avons appris l'histoire. Depuis l'école primaire, moi, j'ai appris que le Rwanda et l'Ouganda, c'était des appendices de la République démocratique du Congo. Et j'ai appris tout au long de mon cursus, j'ai appris également que le Rwanda n'avait pas accès au lac Kivu. Ce sont plutôt les Allemands qui ont demandé à la Belgique de récupérer un peu le territoire qui longe le lac Kivu et le donner au Rwanda. De même pour le Burundi. Mais heureusement, le Burundi ne parle pas.
Et donc, le Rwanda n'a pas de terre à réclamer en RDC.
Le Rwanda n'a pas de terre à réclamer en RDC. La RDC dispose d'ailleurs de plusieurs historiens, dont le plus grand, même à travers le monde, on le connaît, Isidore Nziem. C'est un grand historien qui a rappelé comment se présentait la carte de l'Afrique avant 1895. Et qu'il rappelait également, c'est lui qui a dit que le Rwanda n'a pas de terre à réclamer en République démocratique du Congo. C'est plutôt la RDC qui a des terres à récupérer, s'il le faut, au Rwanda.
Commandant Mouzembe, ce n'est pas la première fois que les autorités rwandaises tiennent ce genre de déclarations. On se rappelle qu'en 1997, alors que l'AFDL avançait vers Kinshasa, le président rwandais de l'époque, M. Bizimungu, avait même réclamé la conférence de Berlin bis pour revoir les frontières. Et donc ce n'est pas nouveau. Si à l'époque nous avions pris, si les gouvernements de l'époque avait pris au sérieux, n'est-ce pas, cette question en se préparant à toute éventualité. Et vous pensez que le président Kagame aurait eu le courage aujourd'hui, n'est-ce pas, de tenir ses langages 26 ans après?
Je peux rappeler que Bizimungu, qui est Hutu, était otage de Kagame. Parce qu'il était président par la volonté du FPR, le FPR de Kagame, qui venait de prendre le pouvoir au Rwanda. Donc il faut dire qu'il était otage de Kagame et il était dans la logique, enfin il était obligé de parler selon la logique de Kagame. Aujourd'hui, voyez Bizimungu, posez-lui la question. Moi, j'ai étudié personnellement avec des Rwandais, des Burundais, dans le Katanga, l'ex-Katanga si vous voulez. J'ai étudié avec eux. J'ai étudié également avec des Zambiens de Nyasaland, donc des Malawites aujourd'hui, des Zambiens, des Rhodésiens à l'époque, même des Angolais. Ils n'ont jamais, les autres, en dehors du Rwanda, les autres, comme Zambiens, Malawites, Angolais, Botswanais, n'ont jamais eu des prétentions sur les territoires congolais. Il n'y a que le Rwanda de Kagame. Il y a des prétentions sur le territoire congolais, mais selon une philosophie développée par des anciens du Rwanda qui ont commencé déjà l'infiltration et la déformation de l'histoire du Congo et de l'histoire de la région du Belgique.
Merci, Madame Sifa Bahati, journaliste à la Radio Soleil et mettant des Boutembo au Nord Kivu. Vous êtes membre de l'Union congolaise des femmes des médias Ikofem et Boutembo. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'en affirmant qu'une partie du territoire rwandais avait été cédée à la RDC, Kagame veut créer une diversion, qu'il ne faut pas les prendre au sérieux, il veut seulement créer une sorte de diversion?
Bon, dire que Kagam veut créer une sorte de diversion, moi personnellement, je ne pense pas que c'est la diversion. Et il veut juste justifier parce que tous les rapports, si vous lisez les rapports des experts de l'ONU, il est accusé, même si jusqu'à sa dernière sortie médiatique, il était en train de nier sa responsabilité dans tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, notamment la guerre entre les FARDC et les rebelles du M23. Et aujourd'hui, dire qu'il est en train de jouer à la diversion lorsqu'il justifie son agression à RDC par la récupération des terres qu'il suppose avoir ici à la République démocratique du Congo, ce n'est pas une diversion, c'est plutôt une justification des attaques que ce militaire lance contre la République démocratique du Congo en collaboration avec les rebelles du M23 qu'il soutient. Mais ce qu'il faut dire au sujet de ce qui s'est passé, notamment les récents propos du président rwandais Paul Kagame et aussi les refus pour la délégation de Kigali de participer à la réunion des ministres de la Défense, membres de l'EAC, ça doit interpeller Kinshasa. Kinshasa doit se souvenir que malgré les accords, malgré son appartenance à l'EAC et à d'autres organisations de la région, la RDC garde toujours sa souveraineté. Et garder sa souveraineté, ça veut dire savoir lire entre les lignes. Dernièrement, il y a la société civile Coordination Provinciale du Nord Kivu qui a alerté sur les violations des droits humains d'auto-auteurs, les rebelles du M23 dans les zones qui sont supposées être sous contrôle des forces de l'EAC à Kibumba, Rumangabo, Kiwanja, Kichanga et Mwesho, et aussi Mushaki. Il faut dire que tout ça sont des éléments qui prouvent que la RDC est seule dans cette guerre. Donc on ne doit pas croire à la diversion, on doit plutôt renforcer les forces armées de la République démocratique du Congo et renforcer, c'est-à-dire se préparer à une guerre qui est déjà déclenchée parce que avant on disait que la RDC est en train de combattre les rebelles du M23, mais à travers les propos de Paul Kagame, ceux qui ne croyaient pas à une guerre d'agression et d'occupation peuvent maintenant se servir de cette déclaration pour croire que la RDC fait face à une guerre d'agression et d'occupation.
Merci.
Et ça doit amener Kinshasa à accélérer la réforme des services de sécurité, notamment les FARDC, l'ANR et la police nationale congolaise.
Merci, merci madame. Maître Hervé Diakessé, avocat et membre de la société civile, pourquoi Kagame préfère déclarer cela en dehors de son pays, au Bénin, et choisit ces moments-ci pour faire une telle déclaration? On se rappelle que les rebelles du M23 ont commencé avec beaucoup de réticences à se retirer de certaines positions qu'ils occupaient. Le contexte est un des facteurs essentiels, n'est-ce pas, dans les processus de communication. À votre avis, pourquoi choisit-il ces contextes pour faire passer ces messages?
Ah, difficile d'être dans la tête des amis et de dire pourquoi. Et maintenant, qu'est-ce qu'il tire comme dividende? Par contre, je peux, moi, avancer quelques hypothèses en rebondissant sur ce que votre compteur a dit tout à l'heure. Je considère, et même Kamanda qui a vraiment fait une analyse historique extrêmement importante pour mettre les choses en contexte, je considère que les besoins d'expansion territoriale du Rwanda étaient un besoin de sa survie. Okay? Le Rwanda aura toujours une difficulté entre sa démographie et les petits espaces dans lesquels il vit. Ça, c'est même, je crois, les récurrentes crises intercommunautaires que le Rwanda connaît est liée notamment à cette question de cohabitation sur un espace réduit. Donc ça, c'est une réalité. Et le grand voisin, qui a, lui, plus des vastes territoires et une population qui est moindre par rapport aux grands espaces qu'il occupe, c'est bien nous, le Congo. Donc, il va toujours, il ne regardera pas au Burundi, il ne regardera pas en Tanzanie, il va toujours lorgner sur le Congo, ça c'est un fait. Effectivement, c'est à nous de prendre les dispositions pour faire comprendre au Rwanda que nous ne sommes pas là pour compenser son déficit d'espace, ni son révisionnisme historique. Mais par contre, je disais que Si je ne sais pas donner le contexte, mais je peux faire quelques comparaisons avec la situation qu'on a connue en Crimée avec Poutine. Et même la situation, que les prétextes qu'on a donnés à Hitler pour envahir les pays voisins sur la question de l'espace vital. Vous savez bien que Poutine a allégué l'existence d'une population russophone en territoire ukrainien qui, historiquement, linguistiquement et culturellement, est plus rattachée à la Russie, mais géographiquement et territorialement se retrouve sur les territoires ukrainiens. Et donc, après un petit référendum, tout ce monde est redevenu russe et effectivement, la Russie défendait son territoire. Tout le monde aurait dit que la Russie a agressé l'Ukraine. La Russie a regardé le monde en disant non, la Crimée est rentrée en Russie. Donc, comme mon armée se trouve en Crimée, mon armée se trouve sur le territoire russe, mais c'est plutôt les Ukrainiens qui veulent agresser une partie du territoire. Donc, peut-être que si la rhétorique de dire, écoutez, l'M23, c'est le Rwanda qui avance masqué, ça ne passe pas, et que des temps, maintenant on commence de plus en plus à se rendre compte que non, on a affaire à une guerre d'agression avec un voisin belliqueux qui va continuer à exploiter nos dissensions et nos querelles internes qui sont réelles, il ne faut pas les nier, les déficits des questions de l'État qui sont patentes et les tentatives de vouloir s'éterniser au pouvoir, y compris par des voies tortueuses, c'est une réalité qui nous affaiblit à la face du monde. Donc on a un voisin qui va continuer à chercher toutes nos faiblesses pour s'y impliquer, et pourquoi pas alors se servir de quelque chose qui, sur le plan contemporain, dans les faits accomplis, commence à marcher, en disant, mais vous savez bien qu'au Congo, il y a une population d'ascendance rwandaise et d'origine tutsi, qui est plus l'ancienne que des Francs Kagame. Je n'ai jamais trop entendu parler des Hutus qui se trouveraient au Congo, qui seraient aussi d'origine rwandaise, et que, partant, pourquoi est-ce que Kagame n'utiliserait pas ce genre de revendications historiques aujourd'hui pour dire qu'en réalité, il y a un territoire qui aurait appartenu au Rwanda où se trouvent des populations d'origine rwandaise. Ces populations peuvent rentrer avec leur territoire dans ce qu'a été le Rwanda dans les temps. Et je peux maintenant militairement défendre mes compatriotes alors que juste là, ils soutiennent des mouvements qui disent être des mouvements congolais, mais en réalité, c'est l'armée rwandaise qui est à travers eux. Donc, c'est une hypothèse que j'avance. Je ne dis pas qu'elle est réellement fondée, mais en tirant les leçons de l'histoire contemporaine par rapport à ce qui s'est passé en Crimée, je dis tout est possible.
Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, l'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Nous allons écouter, je te jure, cette nouveauté de Cindy Lecoeur, de l'orchestre Quartier Latin des Confis Olomidé, et on revient juste après. Thank you.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours avec nos invités. Nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur la problématique du délabrement et du déficit des infrastructures routières en RDC. Nous avons également analysé les déclarations du président rwandais sur le territoire de la RDC. Participe à cette émission, Madame Sifa Bahati, elle est journaliste à la Radio Soleil émettant de Butembo Nord Kivu, elle est membre de l'Union Congolaise des Femmes des Médias Ikofem Butembo. Kamandaoka Madame Mouzembe, journaliste, il est correspondant de la Radio France Internationale RFI en RDC. Et Maître Hervé Diakessé, avocat, il est membre de la société civile. Les partis civils au procès des jeunes du parti politique INAFEC ont présenté mardi 11 avril à Lubumbashi dans les Haut-Katanga la liste des 17 victimes tuées par balle. Le tribunal militaire de Lubumbashi a cependant rejeté leur demande de poursuivre les prévenus pour génocide et crimes contre l'humanité en plus de l'infraction des meurtres. La défense a pour sa part voulu savoir si toutes ces victimes présentées ont un lien direct avec les événements du 23 mars dernier. D'où sa demande de voir les parties civiles en apporter les preuves. Plusieurs témoins se sont présentés à l'audience du mardi. C'est notamment les responsables des morgues de l'hôpital général de la commune de Kenya, celui de l'hôpital de Sendwe, le responsable de la Croix-Rouge et ceux de l'INAFEC et autres. Maître Hervé Diakessé, vous avez choisi ces sujets. Qu'est-ce qui motive le choix de ces sujets?
D'abord parce que c'est une situation très inquiétante qui devraient tous nous interpeller après une série quand même d'actes de tueries plus ou moins isolées qui se passent dans le Katanga et particulièrement dans le Haut-Katanga. La première chose qui m'a interpellé, c'est que il a fallu que des corps se retrouvent au niveau du canal des Naviundu, qu'on voit émerger des corps dont certains criblés de balles et qu'on voit fuiter des vidéos des jeunes en train de pleurer dans les morgues et des cadavres criblés de balles, et qu'on voit aussi d'autres vidéos des bus en train d'évacuer des corps dans des sacs de jute pour qu'il y ait une réaction. Donc il n'y avait pas eu une réaction officielle et spontanée des autorités informant l'opinion qu'il y a eu un carnage, un nombre important de personnes tuées par balles, et que, de ce fait, des enquêtes devraient être menées et que des gens devraient collaborer à la manifestation de la vérité. Donc ça, c'était la première chose qui m'a étonné. Et la deuxième chose, le point commun sur la plupart des victimes, c'est leur appartenance à la JUNAFEC, qui est la branche de la jeunesse de l'Union nationale des fédéralistes du Congo. Et donc, pourquoi ces jeunes, pourquoi en ces moments-là, et pourquoi ils ont été criblés des balles sans qu'il y ait une réaction spontanée de l'autorité, ni d'ailleurs une réaction, des déclarations claires de leur propre parti. Enfin, le dernier élément qui m'a aussi interpellé, c'est que au lieu de se concentrer sur cette situation qui était en soi très grave, des personnes qu'on peut tuer en pleine journée et dont on retrouve les corps noyés dans les lacs en train de surnager, l'autorité s'est plutôt complu dans la minimisation, dans la minoration du chiffre exact des morts. Donc les débats n'ont plus porté sur le fait que même un seul Congolais puisse être tué, mais sur le nombre exact. Là, vous annoncez qu'il y a eu 17 victimes, la société civile a publié un rapport. Oui, et on parle de 45 victimes. L'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, lors de la messe en mémoire de ces victimes, parle aussi d'une quarantaine de morts. Et la dernière chose, la précipitation avec laquelle les autorités ont voulu qu'on organise les funérailles. Or, la loi dit, lorsqu'il y a mort, des morts violentes, ou lorsqu'on est les circonstances de la mort, laisse croire que les personnes sont décédées d'une manière violente, il faut procéder à une enquête, il faut procéder à un procès-verbal des constats, à une expertise. L'expertise aurait porté sur l'autopsie d'abord, pour connaître l'heure de la mort et les causes, et sur la balistique, puisqu'on a vu des corps criblés de balles, pour connaître leur position exacte au moment où on leur avait tiré dessus. Par exemple, on ne peut pas alléguer que ceux qui ont été tués avaient un comportement hostile vis-à-vis, par exemple, de ceux qui ont tiré, si certains, on les trouve criblés des balles dans le dos.
Justement, oui. Comment une affaire apparemment banale où des jeunes d'un parti politique étaient dans leur réunion, ces jeunes sont tombés sous les balles des militaires. Qu'est-ce qui s'est passé ce 23 mars 2023 à Lubumbashi?
C'est ça que l'enquête aurait dû nous permettre de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé au point que des jeunes puissent, qui ne savent pas nager, puissent tous plonger dans des marécages où ils vont aussi se noyer. On sait tous que quelque temps avant, la hiérarchie des Lunafec a été fortement secouée par des querelles internes et des communications, des désaveux de la Lunafec vis-à-vis de leur hiérarchie, en estimant qu'elle s'est faisait manipuler et que d'ailleurs il y avait des autorités d'autres partis politiques proches de la présidence qui commençaient à manipuler l'UNAFEC. Donc vraiment l'UNAFEC est dans une situation de tension interne totalement indéniable. Ça, ce sont les circonstances ayant précédé cette tragédie. Mais les liens de causalité entre ces querelles et le fait que ces jeunes aient été tués, seule une enquête sérieuse devrait nous le permettre.
Merci. Merci, Madame Sifa Bahati. C'est quoi votre lecture par rapport à cette habitude que l'on constate chez certains policiers ou militaires, habitude qui consiste, n'est-ce pas, à utiliser les armes létales, même là où on n'a pas besoin d'avoir nécessairement une arme, hein. Là, c'était la réunion d'un parti politique, même si après il s'est posé un problème, fallait-il utiliser nécessairement des armes létales?
Bon, moi, personnellement, je pense que l'armée n'est plus disciplinée comme on l'a toujours pensé, parce que on a toujours dit que la discipline est la mère des armées. Souvent, les éléments qui sont déployés sur le terrain agissent de leur propre gré, pas même lors de leur commandant. Et les événements qui se sont succédés à République démocratique du Congo et qui, donc la dispersion, les dispersions en général des manifestations à République démocratique du Congo qui ont occasionné des morts d'hommes doivent amener les logisticiens des services de sécurité ou soit les services de maintien de l'ordre à réfléchir autrement, parce qu'on nous a toujours dit qu'il y a, pour disperser une manifestation, il y a des normes à suivre. J'ai déjà participé à une formation chez la MONUSCO qui avait organisé ça à ville de Butembo. On était en train de former les policiers au maintien de l'ordre public. On ne peut pas tirer comme ça sans prévenir les gens qu'on veut disperser. Ça signifie qu'au-delà de l'indiscipline qui caractérise certains agents des services de sécurité, il y a aussi les manques de professionnalisme. Ça signifie que la République démocratique du Congo doit capaciter chaque jour les éléments qui sont censés maintenir l'ordre public. Et au-delà des renforcements des capacités, il faut voir comment on peut leur doter des équipements qui peuvent leur permettre de maintenir l'ordre. Ça a causé des morts d'hommes. Il y a, par exemple, nous apprenons qu'à Kinshasa, il y a des systèmes, des véhicules qui dispersent de l'eau chaude sur les manifestants pour les disperser. On doit amener le même système dans des provinces où ça des lacrymogènes. À un moment donné, à ville de Butembo, les services étaient en train d'utiliser des armes létales pour disperser les manifestants. Et là, le commandant nous avait dit qu'il n'y avait plus de lacrymogènes, raison pour laquelle on a tiré à l'air pour disperser les manifestants. Donc, le contexte préélectoral et post-électoral a toujours été caractérisé par des violences et les autorités doivent y penser pour épargner les vies humaines parce que les manifestations sont inévitables dans un contexte préélectoral, électoral et post-électoral.
Merci. Merci, Monsieur Kamanda Muzembe. Le procès est en cours. Est-ce qu'on peut, on peut espérer connaître la vérité à l'issue de ce procès?
Enfin, moi, j'ai toute une autre lecture, hein, parce que on a incriminé d'office les services de l'ordre, les services de sécurité, mais on n'a pas pensé ou on n'a pas évoqué une seule fois les tentatives de, disons, ceux qui couvent au Katanga, et dans l'ex-Katanga, je veux dire, il y a des tentatives de sécession. Il y a déjà des alertes sur ça. Vous savez qu'en Belgique, il y a même quelqu'un qui a été arrêté, qui a déjà depuis le mois de septembre, un fournisseur d'armes, quoi, hein, des gros hélicoptères, qui serait, ça je dis bien qui serait parce que le procès n'a pas encore pris fin. Le Belge, là, il est encore en prison en Belgique. Et c'est la sûreté belge qui l'a fait arrêter, l'a traduit en justice. Et au Katanga, vous avez suivi des discours sécessionnistes. Les gens qui disent qu'ils veulent un Katanga indépendant si tel ou tel autre n'est pas au pouvoir. Donc il y a déjà ce discours-là. Et il y a déjà des signaux qu'il y a eu des recrutements des jeunes qu'on aurait soi-disant appâtés d'aller apprendre l'informatique en Afrique du Sud, mais qui se retrouveraient quelque part dans un pays de la région.
À votre avis, les liens qui peuvent exister entre ce que vous venez de dire ici et le fait d'avoir utilisé les armes devant des jeunes qui étaient dans une réunion d'un parti politique, les liens que vous établissez, c'est quoi?
Je n'affirme pas que les policiers ont utilisé des armes, parce que moi je n'ai pas été là, je n'ai pas affirmé. Je demande seulement à ce que on puisse voir tous ces éléments, qu'on puisse les mettre ensemble, et réfléchir, enquêter. Peut-être que ceux qui ont tiré, ils étaient en tenue de la police. L'M23 est en tenue de l'armée congolaise, des FARDC. Où est-ce qu'ils ont eu ces tenues? Et les gens qui ont tiré, est-ce qu'on les a identifiés? Ce sont des policiers envoyés par le chef. Tout ça, il faut qu'on enquête sérieusement et qu'on y trouve les causes réelles et les commanditaires réels, les vrais commanditaires de ces massacres-là.
Et à votre avis, c'est quoi la leçon qu'on peut tirer de cette situation?
La leçon qu'on peut tirer de cette situation, c'est que, d'abord, le travail qui se fait de découvrir tous les infiltrés dans les services, et dans la police et dans l'armée, ce travail-là doit se faire assez rapidement. Et après, on pourra aller petit à petit pour déceler les vraies causes de ces massacres.
Merci, merci. On va prendre une petite pause en écoutant Ruel On de Papa Wemba et on revient tout de suite après.
Chozi yango yoti na malizika Iye ni talala na nani We unaenda Iye paka ni mawazo Iye paka ni kuwaza waza We unaenda Naenda Kama ile njia ya korenda Kama ni maisha ya kufata We dada Bye.
Ouais, donc, une chanson tirée de l'album Émotion de Papa Wemba. Papa Wemba, dont nous allons commémorer le 7e anniversaire de la mort le 24 avril prochain. Paix à son âme. Je rappelle que nous avons dans cette émission Sifa Bahati, elle est journaliste à la Radio Soleil, émettant de Butembo Nord Kivu. Elle est membre de l'Union Congolaise des Femmes des Médias Ikofem Butembo. Kamanda Kamanda Muzembe, journaliste, il est correspondant de la Radio France Internationale RFI en RDC. Et Hervé Djakese, avocat, il est membre de la société civile. L'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la troisième ère opérationnelle s'est officiellement clôturée le 11 avril dernier. Cependant, la CENI a accordé quelques jours de plus à tous les requérants qui détiennent des jetons. Pendant ces temps, quatre leaders de l'opposition, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Delisa Sanga et Augustin Matata, ont exigé l'audit externe de cette opération. Ils ont fait cette déclaration au cours d'une réunion le vendredi 14 avril à Lubumbashi. De leur côté, les notables des territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, dans la province du Nord Kivu, réunis jeudi 13 avril à Goma, ont recommandé à la CENI et au gouvernement d'organiser des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs dans leurs entités affectées par la guerre. D'après eux, on ne peut pas avancer avec le processus d'enrôlement sans qu'on ne puisse prendre en compte les deux territoires et une partie du territoire de Nyiragongo. Ça rendrait illégitime ceux qui seront élus à l'issue des élections sans ces territoires. Madame Sifa Bahati, vous avez voulu nous parler de ce sujet. Pourquoi?
Bon, en fait, il faut dire que si dans d'autres zones, les gens se font enrôler ou identifier à la CENI, pour participer aux élections, au Nord Kivu, nombreux ont besoin de la carte d'électeur pour avoir libre passage lorsqu'ils se déplacent d'un milieu à un autre. Parce que sur les plans sécuritaires, les services de sécurité se basent beaucoup plus sur la pièce d'identité pour se rassurer que vous n'êtes pas présumé bandit. Donc, il faut revenir maintenant sur la pièce d'identité comme une pièce qui peut permettre à tout citoyen congolais de faire le choix de ses dirigeants. La crainte des acteurs de la société civile au niveau des Rutshuru, Masisi et Nyiragongo est vraiment fondée parce que lorsqu'on regarde l'évolution de la situation sur le terrain, la CENI avait dit que non, on reporte les débits de l'enrôlement des électeurs à Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et dans d'autres zones qui sont sous contrôle des rebelles du M23 pour des raisons de sécurité en attendant que les choses évoluent sur le terrain. Et lorsque les structures de la société civile voient qu'il n'y a pas d'évolution sur le terrain, elles commencent à avoir des doutes au sujet même de l'organisation des élections dans ces zones parce que les acteurs de la société civile ont peur que la CENI déclare les reports ou soit annule les élections à Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, comme ça a été le cas dans les circonscriptions électorales de Beni Butembo et Yumbi en 2018. À Beni Butembo, on a reporté les élections à cause de la maladie à virus Ebola. À Yumbi, c'était pour des raisons de sécurité et c'est ce qui justifie même la crainte des acteurs de la société civile qui pensaient que peut-être les rebelles du M23 vont se retirer dans leur zone et que la CENI va organiser l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs, non seulement pour participer aux élections, mais aussi pour avoir la carte d'identité, la carte d'électeur qui est considérée aujourd'hui comme carte d'identité en attendant l'organisation de l'identification des Congolais, comme l'a signalé dernièrement le chef du gouvernement.
Merci. Maître Hervé Djakese, ces opérations d'enrôlement et d'identification ont pris fin, mais comment vous avez jugé leur déroulement?
Je crois que, en me référant même au rapport de la mission d'observation électorale de l'Église catholique et de l'Église protestante, c'était une mission conjointe, ces élections s'est quand même déroulé dans des conditions chaotiques. Il faut le reconnaître. Nous avions des centres d'inscription cartographiés qui n'ont pas été ceux où on a dû se retrouver. Et ceux qui ont pu être ouverts n'avaient pas toujours les machines fonctionnelles qui pourtant au regard du marché public passé sont censées être des machines neuves et propres à fonctionner à tout moment, et très souvent le problème des logistiques, des machines qui tombaient en panne, des panneaux solaires qui ne parvenaient pas toujours à alimenter, ont posé problème. Nous avons aussi connu, vous vous rappelez, cette histoire d'enrôlement frauduleux d'individus qui ne sont même pas sur les territoires nationaux, mais qui sont parvenus à soudoyer les personnels de la CENI pour avoir 4 à 5 cartes. Nous avons déjà connu des opérations d'identification d'enrôlement des électeurs dans ces pays, mais on doit quand même reconnaître que cette fois-ci, les choses se sont passées de manière chaotique parce qu'on a voulu pousser dans un calendrier qui était totalement irréaliste face à des défis qui ne sont pas nouveaux et que il fallait tout de même anticiper. Et maintenant, nous entrons dans la question maintenant de toilettage des listes, des dédoublonnages et la manière dont les choses ont été faites. On n'a aucune garantie en dehors de ce que la CENI raconte, alors que on a vu des kits électoraux circuler dans des véhicules des politiciens, surgir dans la rue lors des accidents. On a vu des vidéos où on voyait des mineurs s'aligner et se faire enrôler. Donc on ne sait plus dépeindre les vrais du faux. Et la CENI reste là en train de nous dire que tout se passe pour le mieux et va procéder au dédoublonnage sans qu'il y ait quand même une contre-expertise extérieure dans une situation aussi sensible que la question de la légitimité des personnes qui seront issues des urnes. Je pense que à ce niveau-ci, l'engouement dans notre population était davantage d'avoir une carte d'électeur dont la qualité laisse à désirer. Quant à la suite, ça n'augure pas, à mon sens, quelque chose de sérieux si nous continuons ainsi.
Merci, M. Kamanda Muzembe. Beaucoup de personnes, surtout dans la troisième ère opérationnelle, disent qu'elles n'ont pas pu obtenir leur carte d'électeur compte tenu des difficultés que la CENI a rencontrées. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut être fait pour que les circonscriptions concernées ne perdent pas des sièges lorsqu'il sera question de faire la répartition des sièges? Mais aussi, comment faut-il faire pour que les personnes qui n'ont pas pu obtenir leur carte d'électeur puissent accéder à leur carte d'identité lorsque l'ONIP va procéder à la délivrance, n'est-ce pas, de ces documents?
Je crois que Mme Bahati a elle-même à peu près répondu à cette question ou à ces questions. D'abord, à Yumbi, il y a eu insécurité. Beni Boutembo, il y a eu la maladie. Ces phénomènes ont fait que l'élection dans ce territoire-là soit reportée. Bon, aujourd'hui, l'insécurité dans le Rutshuru, l'insécurité dans l'Ituri, bon, ce sont des éléments qui peuvent jouer en faveur du report des élections. Parce que si on l'a fait avec le régime précédent, à Beni, Boutembo et à Yumbi, pourquoi on ne peut pas le faire avec le régime actuel? Et surtout qu'actuellement, c'est que, moi d'abord je ne suis pas d'accord avec l'expression rebelle, parce que le M23, ce sont des terroristes au vrai sens du mot. Ce ne sont pas des rebelles, ce sont des résidus des éléments de l'AFDL qui avaient mis dehors les ex-FAS. Il faut d'abord se rendre à l'évidence de qui est congolais, qui ne l'est pas, parmi les gens du M23. Donc, il faut absolument aller aux élections pour éviter tout ce qui peut amener beaucoup de contestations du pouvoir et tout ça. Il ne faut même pas aller au fameux ou à la fameuse conférence nationale bis. Ce pour faire quoi?
Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à Madame Sifa Bahati, à Monsieur Kamanda Muzembe, à Maître Hervé Diakese d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Lulem Lungamba qui était à la technique avec la participation d'Hervé Voka et de Def Vita. À la présentation Guy Maté sous la supervision d'Alex Essomé, Martin Sobujango et d'Étienne Rougerie. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Bopé Saé Litea de Jano Bomenga Yuando de l'orchestre Vox Africa et on se retrouve le samedi prochain.
Sorti. singai na siliki kedo egalise natina pamba te mabe oyo mobalo ya sala kangai siliki mingi natuni na baboti baye bapesa ye liteya soki ngai na kosilika obakosa matangai na moto mabe o
Thank you.